Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le dimanche 15 janvier 2023 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce saison 4 épisode 137, toujours en direct de New York et depuis le bar The Mark, juste à côté de Central Park. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien depuis Madison Avenue.
New York, ça te relaxe, j'ai l'impression, t'es tout apaisé.
Je suis fatiguée,
c'est pour ça. Bonjour à tous, tout mal poli que je suis, j'ai même pas dit bonjour. Bonjour à tous, le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de faire votre footing à New York, de chercher le sommeil tard le soir en France ou en train de braver les transports dans le froid où que vous soyez.
Notre promesse, même depuis New York, c'est de décrypter l'actualité e-commerce à la sauce Heinz, tomate, ketchup, incisif mais jamais méchant.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
Au sommaire de cette émission, retour sur le premier jour de la NRF. Pendant 4 jours, on prend le pari fou de vous faire un récap de tout ce qu'on a vu. Cette série s'appellera NRF pour notre récap français.
Il y a eu du brainstorming, je sens Laetitia derrière.
Ah ouais, on a passé des heures. Ça, c'est quand on n'est pas fatigué, justement, qu'on ne trouve pas le sommeil. On fait des jeux de mots un peu pourris.
Laetitia.
Adrien.
Prête.
Synchronisation des montres.
Alors Laetitia, comme à chaque événement qu'on couvre, j'aime bien commencer par poser les bases pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cet événement. C'est quoi cet événement déjà ? Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Qu'est-ce que c'est que la NRF ? Peut-être que vous l'avez déjà entendu par ici et par là. La NRF, c'est l'événement international de la National Retail Federation. C'est la plus grande fédération américaine, mais aussi mondiale, qui regroupe les grands magasins, les détaillants spécialisés, ceux qui proposent aussi des produits à prix réduit, qui ne travaillent que par catalogue. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Et puis bien sûr, le commerce en ligne, les indépendants, les chaînes, toutes ces sociétés, mais aussi les sociétés de marketing, les éditeurs, les fournisseurs de solutions. Voilà, c'est tout ce beau monde qui appartient à la NRF. Et donc la NRF décide une fois par an de créer son Retail Big Show. Et donc c'est l'événement auquel nous assistons, qui est l'événement dédié au retail.
C'est vrai qu'on appelle ça l'événement NRF, mais en fait il faudrait dire l'événement Retail Big Show
retail
de la
Big
NRF,
Show.
Etc. Mais c'est long. Et justement, c'est où ? Tu l'as dit, mais
c'est à New York. C'est à Manhattan.
C'est toujours à New York ou ça change chaque année?
Moi, je crois que c'est toujours à New York. Dans mes souvenirs, c'est toujours à New York, c'est toujours à Manhattan et c'est toujours au Javits Center qui est l'un des plus grands centres de congrès, en tout cas de Manhattan.
Tu nous as dit c'est quoi l'événement et qui l'organise. Ça couvre quoi comme sujet?
Ça couvre tous les sujets liés au retail et à la vente, plus particulièrement qu'elle s'effectue en boutique et ou en ligne. Donc, tout ce dont vous avez besoin en tant que retailer pour pouvoir vendre en ligne et en magasin, vous allez pouvoir venir faire votre marché et trouver toutes les solutions qui vont vous accompagner et développer votre croissance.
Laetitia, il y a du e-commerce.
Il y a du e-commerce, il y a du marketing, il y a de la perso,
il y a
de la supply chain, il y a de tout.
Il y a des robots, il y a des boîtes, des emballages.
J'ai vu quelques robots.
Donc il y a tout.
Non mais il y a tout en fait.
Est-ce que si je vais être provocateur, on pourrait dire c'est Paris Retail Week en plus.
Non, moi je pense que c'est incomparable.
Pourquoi c'est incomparable? On commence déjà dans le débat, alors qu'on est dans l'intro. Ok, on va le garder pour après.
Non, mais je suis un peu chauvine, enfin pas chauvine d'ailleurs, mais du coup c'est un peu détractrice de ce qui se passe en France. Je trouve que ça n'a rien à voir.
Alors, ça s'adresse à qui cet événement?
Ça s'adresse aux décideurs, mais je pense que c'est pas le petit décideur, c'est les CEO, c'est les chairman, c'est les fondateurs qui viennent ici, des VC aussi. Tous ces gens-là viennent. Et puis bien évidemment, les retailers sont invités à participer à cet événement.
Et c'est à New York, c'est pour les Américains, c'est pour tout le monde.
C'est worldwide. On entend parler toutes les langues du monde et on voit des gens venir du monde entier à cet événement.
Et est-ce que tu as des chiffres à nous partager pour se rendre compte de la taille de l'événement?
Alors, premier chiffre, c'est la 113e édition. Donc, en fait, cet événement
113,
est quand même...
113, t'entends du bled?
Ah, j'aurais dû la faire! C'est la 113e édition.
Elle n'est pas très ghetto, cette édition.
Pas du tout. Là, on est plutôt en mode... c'est un autre niveau. 35 000 visiteurs sont attendus et ce sont plus de 1000 exposants qui sont présents. On recense 75 pays qui sont présents sur l'événement. Et bien, comme je te le disais, c'est tout ce beau monde qui fait les beaux chiffres de la NRF.
Je sais pas si, ça y est, on empiète sur la conclusion, mais il y a quand même des pays qui sont plus représentés que d'autres. Là, de tête, j'irais Brésil, Israël, France.
Brésilien, non,
j'ai pas entendu un Allemand. Voilà, les Asiatiques, il y en a très peu.
Mais enfin,
tu parles de 75 pays, je sais pas, j'ai pas vu un seul Suisse, ou vraiment, peut-être qu'ils sont, ou un. Ouais, bon, bref, je sais pas, je pense qu'il y avait quand même des pays qui sont beaucoup plus représentés.
Il y a des pays qui sont peut-être surreprésentés, et tu vois, on en discutera d'autres plus tard, mais sur les délégations et les pavillons, moi, j'ai vu que le pavillon France et le pavillon israélien. Ou peut-être que c'est un choix.
Le pavillon France est très bien situé, mais on en parlera tout à l'heure. Écoute, il y avait d'autres choses que tu voulais partager là en intro sur l'événement?
Non, je trouve que c'est
alors
bien.
Alors peut-être non, le plus important, Laetitia, tu l'as fait combien de fois sur 113 éditions?
Mais c'est la première fois que je viens.
Eh bien moi aussi.
Moi j'avais l'habitude d'envoyer les gens là-bas.
Exactement. Ça fait depuis des années qu'on bosse pour des boîtes, qu'on entend parler de ça. Et donc c'est tous les deux, pour la première fois, on est ici. Donc on est hyper contents, on peut le dire?
Ouais, on peut le dire. Et tout ça, c'est le fruit de notre travail. Et aussi des écoutes LCDE.
Je sentais qu'il fallait pas que je te laisse terminer cette phrase. On va commencer. Je te propose tout de suite d'aller dans le vif du sujet, d'aller dans le récap. On va parler aujourd'hui des conférences qu'on a pu voir, des Frenchies qu'on a pu rencontrer. On va pouvoir conclure aussi, mais je veux d'abord commencer par des choses qui t'ont marqué. Et je t'ai demandé de réfléchir à trois choses qui t'ont marqué. Moi, j'ai fait la même chose. Je voulais commencer, mais en fait, je vais te laisser commencer. On va changer un petit peu, on va improviser. Alors, quelle est la première chose qui t'a marqué de cette journée?
La première chose qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression de voir le mot intelligence artificielle partout, sur tous les stands. Je ne vois que des solutions qui sont powered by IA. La plupart du temps, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas, donc il faut que je me renseigne. Mais tu sais, c'est un peu comme à l'époque, mais il y a encore quelques temps où on te mettait du Web3 partout, du Metaverse partout, où on te mettait du paiement fractionné partout, ou de la customer experience partout sur tous les stands. Bah là, moi, je ne vois que le mot IA.
Et tu sens que c'est utilisé, surutilisé dans tous les sens, c'est ça?
Ouais, j'ai l'impression que c'est partout, c'est vois, un peu ouais, de l'IA washing là.
Ouais, ok. Donc pour toi, c'est le message, c'est du marketing, c'est du IA washing, mais tu penses pas que l'IA s'est démocratisé, que toutes les technos aujourd'hui elles utilisent de l'IA?
Je sais pas, il faut que je creuse pendant les deuxième et troisième jours.
Je pense que c'est une bonne idée de demander et qu'on creuse un peu plus, parce que t'as raison. Surtout les stands qui balancent de l'IA, tu creuses un peu et tu dis qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ok.
Et toi, ton côté, Adrien?
Bah justement, je voulais te parler d'une chose, mais justement, ça fait suite à ce qu'on s'était dit dans l'avion, on avait pas mal discuté dans le vol. Je te disais qu'il y avait un concept que je regardais pas mal ces derniers temps, c'était le concept de Digital Twins, et je suis content de l'avoir retrouvé pas mal dans le salon, notamment au travers de deux boîtes qu'on a pu expérimenter. Donc ce qui était plutôt sympa, c'est qu'on a eu des démos, c'est Volumental et Fitmatch. Les deux te proposent à partir de ton corps de te créer ton avatar. Le premier, c'est sur ton pied pour pouvoir savoir exactement quelle chaussure est le mieux adaptée à toi, et le deuxième, c'est sur ton corps, les vêtements. Et pourquoi on parle de Digital Twins? Alors je ferai certainement un petit j'allais dire hors-série, non, mais une petite aparté dans quelques numéros, Laetitia, pour expliquer bien en détail ce que ça veut dire. Mais l'idée, Digital Twins, c'est ton jumeau numérique. C'est de recréer en digital. Le plus simple, c'est de comprendre un avatar. Tu vas avoir ton propre avatar et là-dessus, tu vas pouvoir l'habiller, tu vas pouvoir tester des choses sans avoir à le tester directement. Et donc, j'étais très content. Et une des choses, les deux concourent vers quelque chose. Et donc, je prédis quelque chose dans les prochaines années. C'est ce fameux passeport avatar. Alors, je ne sais pas trop comment on va l'appeler, peut-être passeport Digital Twins, où tu vas pouvoir avoir. Et c'est toi qui as posé la question très justement au stand, c'est j'aimerais bien avoir mon avatar et mes dimensions, mes mensurations, etc. Et en fait, tu vas récupérer toutes les mensurations dans ton wallet, dans ton Apple Wallet ou Google Wallet, et je trouve ça très intéressant. Et donc ils sont en train de se battre pour construire un standard et pour que ça soit leur wallet ou leur standard qui puisse être utilisable dans tous les magasins. J'étais un petit peu long, mais en tout cas ce concept de Digital Twins, on en reparlera, et j'étais content de voir qu'il y a eu des applications concrètes qu'on a pu tester ici. Laetitia, deuxième chose qui t'a marqué de la journée?
Deuxième chose, écoutez, les gros, ils sont tous là, hein.
C'est quoi les gros américains? Tu peux voir tes gros sophons disant ça. T'as pas le droit de dire
les
ça.
Gros éditeurs. Alors, je vais rectifier. Les gros et anciens éditeurs. Ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous, sur les salons européens. Je parle des IBM, des Cisco. Bon, j'ai pas vu de Oracle, mais j'ai vu du SAP. Voilà, tous ces gros sont là. Bon, il y a du Amazon, il y a Google. C'est vrai que Google pourrait maintenant apparaître comme un dinosaure. Mais en tout cas, il y en a pas mal, là, que je vous ai cités, qu'on voit plus trop, nous, sur les salons qu'on fait. En tout cas, dédiés au retail et surtout à l'e-commerce. Ils choisissent où est-ce qu'ils vont ils sont là. Et puis il y a quand même des gens qui sont un petit peu plus discrets, des éditeurs un peu plus discrets, où là en Europe, on les voit beaucoup plus. Les fintech qui me sont chères à mon petit cœur, elles sont un peu disséminées, quoi. Hein. C'est pas les One to One Monaco où ça sponsorise des yachts et des tours.
Laetitia, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a parlé en off avec pas mal de personnes. Il y en a, c'est clair, c'est un gros investissement pour venir avoir son stand ici. Il y en a beaucoup, ils font ça pour l'image. Ils savent qu'ils vont pas faire du business, ils font de
la
l'image.
Visibilité,
il y en a des tout petits qui font ça pour l'image, il y en a des très très gros, c'est indispensable qu'ils soient là, et je pense que ça peut expliquer peut-être en partie de voir ces acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, et t'as complètement raison, c'est bizarre. Il y avait Adobe,
Microsoft aussi, mais on les voit plus souvent, moi je les vois plus souvent.
Et puis ils ont des gros stands quand même. Ouais. Et puis ils parlent de plein de choses, des sujets qu'on verrait pas nécessairement nous en Europe.
Et toi, Adrien, ton number two ?
Eh ben, j'avais presque volé ton premier. J'aurais peut-être dû l'inverser, justement, comme ça, ça aurait fait écho.
C'est là où on n'est pas d'accord.
Écho. Bah non, parce que toi, tu voyais IA partout, mais moi, je voyais composable partout. C'était. Ça me faisait presque marrer. En fait, je me suis même marré à un moment donné tout seul dans mon coin. Donc, composable commerce, composable store, composable checkout, composable papa-maman, composable ce que tu veux.
Composable story, c'est ce qu'ils disent toujours.
Voilà, donc tu vois le composable, mais en fait, le point, c'était amusant de voir que le composable sort du digital. Du e-commerce et va dans le store, et puis demain sera composable canal ou multicanal ou omnicanal ou ce que tu veux. Donc voilà, ça me faisait juste sourire de voir que le composable est repris à toutes les sauces partout par tout le monde. Et d'ailleurs, on a vu Shopify qui a son stand, et tu sais, Shopify, ils ont annoncé très récemment, on en a parlé dans le dernier
Component.
épisode, CCS Component, donc le positionnement grand compte composable, et tout leur stand était maquillé, c'est pas gentil de dire ça, mais en tout cas habillé avec CCS, donc c'est un positionnement très fort qu'ils veulent avoir, et puis ils veulent marquer le coup là-dessus. Donc eux aussi, ils n'utilisent pas nécessairement il y a le composable, c'est ça, CCS. Donc ça m'a marqué. Troisième chose, Laetitia, qu'est-ce qui t'a marqué?
C'est l'absence du Web 3. Je n'ai vu apparaître ce mot qu'une fois sur un petit stand qui était caché sur le tour qu'on a fait, la Innovation Lab.
On l'a fait vraiment?
Non, on l'a passé, on s'est barré au bout de 10 minutes.
Mais Français, j'ai eu le temps. On commence le tour et on lâche l'affaire au bout de 10 minutes parce qu'on se dit que c'est pourri, qu'on va le faire nous-mêmes.
Et ça marchait même pas, les trucs. Enfin,
non, ça marchait, mais c'était surtout pas très intéressant ce qu'ils faisaient. Vas-y.
Mais je l'ai vu qu'une fois, le mot Web3 apparaître sur un stand perdu, caché. Et je me suis dit, oh là là, mais ça n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus une grande tendance. Alors que je pense que. L'année dernière, on n'était pas là, mais en tout cas, nous, sur les salons qu'on a couverts, je peux vous dire que le Web3 et en tout cas le métaverse, c'était partout. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Meta n'est pas présent. Hein. Donc voilà, je suis à la fois surprise et en même temps, peut-être que ça poursuit et ça vérifie. Toutes tes prédictions, Adrien.
Ouais, c'est pas bien ou pas bien, c'est juste effectivement là, c'est plus du tout, on le voit pas. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément de solutions qui reposent sur des briques Web3, c'est juste qu'ils le marketent moins parce qu'on sait que tu te prends dans la
tronche. Tu vois, la blockchain par exemple, t'en as beaucoup qui reposent sur ça. Alors, il en a parlé.
Besoin de le mettre sur les slides.
Je sais plus quel mec en a parlé. Ouais, Mattel.
On va en parler tout à l'heure. Ouais.
Mais avant, c'était un mot qui apparaissait partout. Là, c'est un petit mot qu'on glisse comme ça. Et toi, Adrien, ton dernier point qui t'a marqué?
Le dernier point qui m'a marqué, c'est le paradoxe qui est que, on en parlait tout à l'heure dans les conférences, mais tout le monde est au courant que c'est compliqué dehors. C'est très, très compliqué. Pas juste parce qu'il fait froid, mais parce que l'économie, elle est morose. Et en même temps, tout le monde a le sourire, balance, tu vois, tout le monde semble très convaincu, optimiste qu'il va y avoir beaucoup de boulot, beaucoup de business, alors que c'est très, très compliqué. Bon, on est aux États-Unis, donc c'est peut-être aussi le jeu d'avoir le sourire, etc., d'être toujours très 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 optimiste, mais j'ai trouvé ça un petit peu paradoxal. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais,
on parle pas de la crise ou quoi que ce soit, de la guerre.
Non,
et
puis d'ailleurs, ils n'en parlent pas le mot crise. Hein, même inflation, ils n'en parlent pas. Ils parlent beaucoup de période post-pandémie.
De post-purchase? Non, ça c'est autre chose.
Non, c'est un autre mot que j'ai inventé qui m'est crédité. Non, mais ils parlent beaucoup de période post-Covid, en fait, de post-pandémie. Mais en même temps, on est dans un pays où l'inflation n'est pas aussi importante qu'en Europe, où ils n'ont pas les mêmes résultats, enfin les mêmes impacts sur la crise énergétique. Donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils voient les choses de manière.
Ils sont impactés par la Chine et par beaucoup de choses.
Mais ils n'ont pas le même taux d'inflation que nous, ils n'ont pas les mêmes priorités que nous. Je pense aussi que la guerre en Ukraine les impacte peut-être un peu moins que nous.
Mais la Chine les impacte beaucoup.
Mais
beaucoup
la Chine,
quand même.
Oui, d'ailleurs, on en a parlé. On en a parlé. Je crois que j'étais sur scène, moi. Mais en tout cas, ça a été évoqué pendant les plénières. Donc oui, il y a quand même ce côté angélique qui apparaît, qui peut être expliqué, mais qui est difficile pour nous Européens quand on connaît le contexte, en tout cas en Europe.
Elissia, je te propose maintenant de passer aux conférences.
Comme toute grande conférence qui se respecte, eh bien, il y a des conférences. Et il y en a vraiment beaucoup. À Cadrien, on a assisté à 5 conférences, dont la plénière qui faisait l'ouverture. Et je vous propose de découvrir un peu notre récap des conférences.
Ben, la première, c'était la grosse salle plénière qui s'appelait SAP, qui est au 5e étage. On s'en fout de tous ces détails. Mais au final...
Ouais, c'est la salle qui s'appelait SAP.
Ouais, c'est ça. Non, mais ce qui est important, c'est que c'est le président de la NRF qui, pendant 20 minutes, va t'expliquer un petit peu, va poser le cadre. Et ça permet aussi aux gens de se dépêcher de commencer et de venir tôt. Moi, ce que j'ai retenu, c'est beaucoup de quotes à l'américaine. Ils ont balancé plein de citations. Ça a tendance un petit peu à m'énerver, c'est les citations. La chose qui m'a marqué, Laetitia, c'est que ce président de la NRF, il était extrêmement positif. Un peu trop, parce que moi, je suis un rageux français. Mais il dit, écoute, l'industrie, elle est forte. On va y arriver. Vous y allez arriver. Tout ça, c'est un écosystème avec des personnes qui sont fortes, qui sont agiles et qui savent s'adapter. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette
Moi, j'ai pensé que déjà, pour un chairman, il pourrait mieux s'habiller. Il pourrait mieux se tenir aussi. Bon, bah, ça n'a rien à voir avec le contenu. Sur le contenu, effectivement, il était ultra positif. On aurait dit que c'était un mec qui était dans le développement personnel et qui était là pour nous rebooster. Moi, j'ai envie de dire d'accord, mais quand je suis allée regarder un peu les chiffres, par exemple, sur la ville de New York, la ville, elle a quand même perdu 782 magasins par rapport à l'année 2019. Et c'est vrai que quand on se balade dans les rues de New York, mais il y a énormément de magasins qui sont fermés, qui sont à la vente ou encore à la location. Et ça ne résonne pas du tout avec le discours ultra positif que le chairman a balancé.
S'il n'est pas à vendre de l'optimisme, tu vois, autant laisse prendre.
Oui,
mais
ça ne sert à rien qu'il vienne en stage.
Il faut peut-être un peu tempérer et puis expliquer. Mais bon, en tout cas, ouais, c'était un peu le premier meeting où il veut motiver les troupes. Deuxième session, Alicia, c'était quoi la deuxième session?
Alors, c'était John Furner, qui est le CEO de Walmart, donc pas n'importe
Monsieur
qui quand
John.
Même,
hein, mm-hmm.
qui était pas mal d'ailleurs. Et il était avec le professeur James Cash, qui travaille à la Harvard Business School, mais qui a aussi été un champion de basketball.
Et donc, OK pour ces deux pointures. D'ailleurs, ce James Cash, il était aussi au bord de Walmart.
C'est le point
et
commun
alors,
qu'ils ont.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ils ont parlé de quoi?
Ils ont parlé de quoi? Bah, j'ai une citation, moi, qui est « Le new normal is the old normal in retail ». Ça, c'est notre ami le professeur et basketteur qui a cité ça. Encore une fois, on est dans une vision très angélique du retail, du côté bah, « Écoutez, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Et ce qui était normal il y a longtemps, c'est la normalité peut-être de demain ».
Pour moi, c'est la citation anglaise de ta citation française qui est « L'e-commerce, c'est le commerce ». Tu dis souvent
ah ouais,
ça.
C'est vrai.
En
c'est
fait,
vrai,
c'est un
ouais,
peu, on
ouais,
revient
ouais.
au basique, on arrête
oh
de stocker.
J'ai la même chose que ce professeur, c'est génial.
Ouais, ou c'est le professeur qui dit la même chose que toi,
ouais,
tu vois, il te copie,
c'est
inspiré.
Okay. C'est exactement ça.
Autre chose qui t'a marqué sur cette conférence.
Autre chose qui m'a marqué, bah oui, il a parlé d'IA aussi, il a parlé de technologie, d'innovation, et que, en fait, que pour que le commerce et le retail évoluent, bah, on a besoin d'avancer, on a besoin de technologie et d'innovation. Donc j'ai bien aimé, et ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est en fait, il n'y a pas une seule photographie du moment présent, il faut être assez visionnaire et se dire que ce qu'on fait aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain.
Cette session, je ne l'ai pas du tout aimée. J'ai trouvé ça que c'était extrêmement ennuyant.
Ah, c'est très américain.
Et c'est, peut-être, mais alors après, on va parler d'autres.
Et...
Après, on va voir les autres sessions. Il y en a qui viennent. C'était vraiment, on était dans le bullshit motivation où le gars, il expliquait, il te donnait que des conseils très, très génériques, très high level. Le host, en même temps, il faisait son podcast. Alors bon, c'est malvenu de ma part parce qu'on fait des podcasts, mais en fait,
ouais.
C'est un prétexte aussi pour enregistrer, pour nous faire son interview. Il y avait beaucoup de choses que je trouvais que c'était hors propos ou hors sujet parce qu'on est à la NRF, le temple du consumérisme et du capitalisme, et puis toutes les 5 secondes d'avoir les citations. Il y en a une qui l'a ressorti, c'est loyalty in retail is the absence of something better, donc c'est la fidélité dans le retail, c'est l'absence de quelque chose de meilleur. Et figure-toi, avec mon esprit torturé, je suis allé la googler
sur ChatGPT.
Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait il la sort chaque année, donc en fait c'est Sacoute qui sort souvent. Mais bon, c'est pas très grave, tout ça on fait un petit peu c'est pas très grave. En tout cas, c'est des sessions qui étaient courtes, elle a duré 30 minutes, j'ai trouvé que c'était pas très intéressant, surtout pour tu vois, les plénières pour commencer la matinée, mais on a eu ensuite une troisième session.
Alors justement, Adrien, c'était quoi cette troisième session?
Eh bien écoute, c'était une session avec le président et CEO donc le PDG de Saks Off Fifth. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu connais toi Laetitia, ouais ?
Oui, c'est une grande chaîne de magasins.
Exactement, c'est un genre US. Le Bon Marché, mais en chaîne. Pour faire ça. Donc, ils vendent du luxe, ils sont revendeurs de marques de luxe, vêtements, chaussures, accessoires de créateurs, etc. Et donc, ils ont parlé de pas mal de choses. Il y a deux, trois petites choses que je voulais partager avec toi. Donc là, on est dans le luxe, tu vois. Les luxe, c'est ceux qui ont plutôt bien réussi, qui ne devraient pas trop se plaindre, mais ils s'en rendent compte, ils ne sont pas dupes. Donc, ça, je trouve ça plutôt simple, enfin, plutôt bien et très clairvoyant de leur part. Ils se rendent compte qu'il y a une pression sur les paniers des clients et qu'il faut rester toujours sur la valeur de la marque et que la valeur, elle est plus perçue. Et bah, t'es foutu. Ils ont beaucoup parlé de prédictivité, des ventes et du comportement, et que c'est extrêmement dur de prédire ce qui va se passer. Ça nous rappelle un peu les discussions de la fast fashion, du real time fashion, de tout ce qu'on avait. Et ben, c'est extrêmement difficile parce que le client il change très vite avec les TikTok et compagnie sur les réseaux sociaux. Tout peut changer du jour au lendemain, littéralement. Donc, c'est très très dur. Il y a une très forte volatilité. Et enfin, la pandémie, l'opportunité. Alors, tu sais, dans ces sessions, c'est toujours là pour mettre en avant et puis montrer comment le retailer ou la marque est intelligente et forte, etc. Donc, une des choses, parce qu'ils ne parlent pas souvent des échecs, ils parlent surtout des réussites, bien sûr. Durant la pandémie, ils ont fait des rapports dans tous les sens pour essayer de mieux comprendre leurs clients. Et ils ont trouvé un segment de fous furieux. C'est les high earner fashion driven. Ce sera les personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont focalisées sur la mode et qui veulent acheter. Et bon, moi, ça ne me paraît pas fou, mais bon, vous trouvez ce segment. Et du coup, ils ont développé des offres.
Ils ont découvert leurs clients.
C'est exactement ça. Ils ont développé des offres et ils ont vu une croissance de malade sur ce segment. Bravo. Est-ce que ce n'était pas déjà fait avant? Non, mais je plaisante, mais tout ça pour dire la pandémie, c'était un moment pour se poser, pour regarder la data et pour mieux comprendre comment ils allaient mieux pouvoir servir leurs clients. Laetitia, qu'est-ce que tu avais retenu? Enfin, il y a des choses qui t'avaient
retenu. Qu'est-ce que j'ai retenu? Bah oui, c'est que Paige, elle expliquait que 2023, ça va être beaucoup plus conservatif et en même temps plus agile. Donc ça, c'est aussi dû aux recherches qu'ils ont effectuées sur leurs clients, qui, ok, vont être très riches, mais il y a quand même aussi un segment qui va faire attention quand même au prix et qui va essayer d'acheter au meilleur prix. Et donc là, ça amène le sujet de la seconde main, là aussi, j'ai l'impression qu'ils ont un peu découvert, mais c'est pas nouveau qu'il y a de la seconde main, surtout dans le russe, dans le luxe, pardon. Donc ils nous expliquaient que ce qui va être important et décisif pour 2023, c'est de nouer davantage de partenariats avec Renzo Runaway, qui est déjà leur partenaire initial et historique, mais c'est d'en avoir d'autres et de développer davantage ce segment. Et alors, ils n'emploient pas le mot démocratiser le luxe, mais en tout cas, c'est peut-être d'aller vers une clientèle qui a de l'argent, mais qui a quand même envie d'acheter au meilleur prix.
Oui, il y a une phrase qu'ils ont expliquée, c'est leur mission, c'est le luxe moderne, c'est l'accessibilité pour tout le monde. Je ne suis pas sûr que ça va être accessible pour tout le monde, et même son use case de revente de seconde main, c'était un prix très important. Enfin, on n'est pas dans des trucs
dans le luxe,
donc ça restera la cible luxe. Il y a une chose que j'ai bien aimée, parce que on peut beaucoup le transposer à n'importe quel autre secteur, c'est que Q4, donc le quatrième trimestre, était très compliqué. Il y a beaucoup d'inventaire qui reste, et donc au premier trimestre, on va continuer à avoir beaucoup de promotion. Et ça, je pense que c'est un axe qui est intéressant parce qu'on l'a vu quelques fois, on l'a entendu, mais les promos, tu te souviens, il y a quelques semaines, on voulait faire un épisode spécial débat promo parce que, c'est toute l'année.
Et
je crois qu'en 2023, on va se rendre compte encore plus des promos, mais donc du coup, ça casse l'image, le prix, etc. Enfin, ça a d'autres travers qu'on connaît. Du coup, ça va être très complexe deuxième semestre. Enfin, cette année va être complexe et deuxième semestre devrait être meilleur que le premier semestre.
Mais tu vois, là encore, ils ne te disent pas que ça va être complexe, ils te disent qu'il va falloir être conservatif et en même temps agile. Moi, je voudrais juste rajouter que c'est un état des lieux du luxe qui est assez concret, qui est global. Je pense que c'est pas propre aux US, ce qui a été raconté. La seconde main, je l'ai dit, j'étais contente qu'on en parle. Voilà, la volonté de développer cette offre, c'est génial. Bravo les gars. Et puis l'autre chose, c'est que voilà, la vision très customer centrique, mais là, c'est rien d'étonnant, rien de nouveau. C'est quand même propre au luxe de bien connaître ses clients, donc pas foufou quoi.
Cette conférence, au final, moi, j'ai trouvé qu'elle était peu transposable, mais au moins il y avait du concret. Ils répondaient à des chiffres et puis ils expliquaient leurs initiatives cette année focalisées sur la nouvelle app qu'ils ont lancée, le programme de fidélité, et puis aussi une attitude très clairvoyante sur la situation. Donc moi, j'aime bien qu'on est un peu moins dans le bullshit et qu'on se rend compte c'est compliqué, c'est dur, on va pas se mentir. Après, ils vont l'habiller avec le storytelling à l'américaine, on sait, mais voilà. Mais ce qui m'énerve, c'est quand ils vont donner les conseils, c'est être agile, etc. Ça veut rien dire. Tout le monde peut dire ça. T'avais autre chose à rajouter sur cette conférence?
Non, on passe à la suivante. Allez, la suivante. Number 4. Alors, Adrien, quelle était cette quatrième une session?
Eh ben, c'est Macy's, le CEO de Macy's qui était interviewé.
Attends, je te coupe. On a quand même eu les plus beaux noms du retail américain. Macy's, Saks.
Ouais. Et pour les gens qui connaissent pas Macy's, comment pourrait
le
c'est
le genre de, bah, t'as dit le bon marché. Je pense que c'est Macy's, c'est un peu le Galeries Lafayette. En moins bien, quand même, parce que moi, je trouve que les boutiques américaines sont moches par rapport à nos boutiques françaises. Voilà.
Laetitia vient de donner son avis. Ok, conférence intéressante. Il y a eu pas mal de notes, mais finalement, j'ai gardé que une ou deux petites choses. Je t'en parlais tout à l'heure avec sur la Chine, l'impact de la Chine. Ils se sont rendus compte que au niveau de la supply chain, au moment de la pandémie, ils étaient complètement bloqués. Donc ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut être moins dépendant de la Chine? Comment on peut diminuer les coûts et augmenter la vitesse d'expédition et de réception des colis pour les consommateurs? Et ça passe par des entrepôts intermédiaires, ça passe par des contrôles différents dans les entrepôts, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'était intéressant. Et il a quand même parlé de fermer 200 magasins, virer, je crois que c'était près de 90% des personnes,
90%.
Etc. Donc c'était tragique.
Ah, c'était dur. Mais le mec, il trouvait une opportunité.
Il était au KLM. Et donc ça, c'était plutôt cool. Mais tu vois, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il parle de supply, il parle des magasins qui ferment, de comment, qu'est-ce qu'il réfléchit pour ouvrir des nouveaux magasins. Il parle du social dans le sens où comment ses équipes, on va les former. Il parle de diversité, de la stratégie digitale, des perspectives pour installer. Franchement, j'ai trouvé que pour le coup, lui, il.
Non, c'était argumenté. Il expliquait pourquoi est-ce qu'il fermait des boutiques et pourquoi il virait des gens.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en conclusion, pour moi, c'était hyper clair et concret comment il parlait les choses qui le couvraient. Ça sentait qu'ils sont passés par des périodes très, très compliquées, Macy's, et qu'ils ont une pression de fou furieux au niveau du board et même lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont fermé 200 magasins. Si c'est pour en ouvrir derrière, il faut être extrêmement stratège et il faut planifier au maximum. Mais du coup, il a partagé une approche très sensée sur le business, une approche sensée en interne au niveau des talents. Tu as viré plein de personnes, tu as plein de personnes qui vont peut-être vouloir se barrer ou qu'il va falloir faire monter en compétences, et externe quand tu veux te développer face à tes concurrents. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cette conférence. Laetitia, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? La posture était bonne, il était bien assis
me souviens, est-ce qu'il était bien assis celui-là?
Je rigole, vas-y,
il faut le dire quand les gens sont mal habillés et se comportent mal.
On s'en fout complètement.
On s'en fout pas. Moi, je m'en fous pas en tout cas.
Moi, je m'en fiche. Venez à poil, venez mal habillé, je m'en fiche complètement. Quelqu'un porte le flacon quand on a l'ivresse, c'est comme ça.
Je pense que Macy's, c'est vraiment l'incarnation de la maturité du retail américain, retail fashion, j'entends. Ils existent depuis 1850 et les gars, ils ont tout vu déjà. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont capables de faire preuve d'autant de résilience.
Ouais, les crises, ils en ont vu passer.
Voilà, ils en ont vu. C'est une chaîne de magasins, comme je dis, qui a su affronter la transformation digitale, qui a passé la pandémie, tout ce que vous voulez, mais qui continue à se remettre en question, et ça rejoint totalement ce que tu disais. Ils se remettent en question notamment sur leur process, la supply chain, la dépendance avec la Chine. Ils parlaient aussi du last delivery, toutes ces choses-là. Moi, je trouve que on l'a pas précisé, mais ça dure 30 minutes, donc c'est hyper condensé, et de dévoiler autant de choses en 30 minutes avec autant de recul et de lucidité, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que il y a eu des licenciements et des choses comme ça. Enfin, ils prononcent pas le mot layoff d'ailleurs, et je pense que j'en reparlerai lors des prochaines éditions. Mais c'est une entreprise qui grandit avec ses employés. People grow with the business. Et je crois que c'est sur les conférences qu'on a fait, c'est l'une des seules où on parlait des gens, quoi, de ceux qui font le commerce. Adrien, la cinquième et dernière conférence à laquelle nous avons assisté, c'était celle qu'on attendait de pied ferme. C'était celle de Shopify et de son client Mattel.
Alors, ils ont mis en avant plutôt Mattel. C'est la conférence de préparer le futur du retail avec Mattel et Shopify.
C'était l'intervieweur, quoi.
Bah, c'est exactement ça. Tu vas directement à la conclusion, mais c'est ça. T'as deux personnes on stage. T'as d'un côté Shopify qui va interviewer Mattel.
D'ailleurs, si je peux me permettre, il est pas dégueulasse quand même, le mec de Shopify. Pour le coup, je pense que c'était le plus beau gosse. C'est celui qui était le mieux.
Je vais même pas réagir à ça. Du coup, on avait on stage, tu avais Mattel qui expliquait un petit peu son histoire. Moi, je suis arrivé, je connaissais pas plus que ça Mattel. Alors, on connaît les Uno et compagnie, les Barbie et tout ça. Enfin, je connais les produits qu'ils ont. Ils ont des dizaines et dizaines de marques. Je crois même qu'ils citaient qu'il y avait plus d'une centaine de marques.
Je crois que j'ai
400
noté.
Même. Ok. Mais tout ça pour dire, je connaissais Mattel, mais je l'identifiais pas du tout comme une boîte moderne. Et le fait qu'ils aient parlé pendant une demi-heure à expliquer ce qu'ils font, et ben j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ils ont la conférence ou l'échange qu'ils ont eu, il est en trois temps. C'est l'expansion de Shopify au sein de Mattel, si je simplifie. Le premier projet, c'était un projet extrêmement complexe d'un petit site Mattel Création, qui est un projet de NFT. Ils ont commencé à travailler avec Shopify, ça a bien fonctionné. Ils se sont dit, tu sais quoi, j'ai un autre site qui s'appelle American Girl, tu devrais venir m'aider et on va tester du Shopify. Et le troisième projet, ils se sont dit, bah en fait ça a bien marché, on veut balancer toutes les marques sur Shopify. Donc ça, c'est un superbe, c'est très bien, et puis enfin pour Shopify en tout cas. Et les sujets qu'il abordait étaient assez intéressants. Bon, lui il était très très Mattel, donc il expliquait l'histoire de sa marque et ce dont il avait besoin. Les conseils qu'il donnait, j'ai trouvé ça extrêmement bidon. Alors tu vois, la question c'était, quels sont les conseils que tu donnerais aux autres retailers qui sont dans la salle? Il faut connaître, alors les conseils sont les suivants: connaître qui tu es, connaître ton client, connaître ton histoire et engager le dialogue avec ton client, sans déconner. Bon bref, tu vois, c'est le genre de truc. Bon ok, c'est très bien, mais voilà. Donc en conclusion, Mattel du coup c'est une marque cool et innovante, ça m'a fait très beaucoup penser à Lego.
Bah, Lego, d'ailleurs Mattel est numéro 2 je crois après Lego, enfin c'est le concurrent number one.
Lego,
sur le...
ils ont R&D, ouais. Ils innovent, ils font des trucs de fou, ils sont dans le digital. Et donc là Mattel, j'ai découvert que oui, ils sont matures, ils font plein de trucs, ils ont plein d'initiatives blockchain, etc. Deuxième chose, j'étais pas du tout fan du panéliste de Shopify, il était complètement biaisé, il parlait trop, il faisait ses propres réponses, il partait en débat dans ses questions. Donc ça c'est sur la forme, là je fais mon Laetitia justement sur la forme, ça m'a pas plu. Mais par contre je me suis rendu compte que Mattel est une excellente référence pour Shopify. Tu as du multimarque, du multi-pays, du multi-canal avec la complexité Web3, franchement c'est du scale. Je comprends pourquoi ils l'ont mis dans les PR là, il y a quelques jours. Cette histoire, il faut vraiment la faire connaître parce que c'est un très beau use case. Et en plus, Mattel, c'est pas le dernier à taper sur du Salesforce, alors indirectement, mais sur tous ces acteurs un peu plus traditionnels. Laetitia, t'as kiffé cette session de Shopify ou pas trop?
Alors,
parce que c'est toi la Shopify girl.
Exactement. C'était une conférence qu'on attendait. En tout cas, moi, je l'attendais. J'ai pas forcément été ni déçue ni surprise. J'ai été ravie d'en apprendre plus sur Mattel et le partenariat avec Shopify que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'histoire composable d'ailleurs de Mattel et de Shopify. J'ai découvert que Mattel, c'est une vraie success story américaine, quoi. Comme on les aime. Ça commence dans un garage après la guerre,
ouais,
et puis c'est génial.
Je crois que c'est romancé.
Non, mais ouais, c'est romancé.
Oui,
tout le monde aurait commencé dans un garage aux US. Non, mais il faut arrêter. Non. donc voilà. Bon. Mais en tout cas, il y a une histoire qui est bien américaine, qui est bien ancrée. Et justement, l'histoire de Mattel, c'est l'histoire de tous les gens qui ont un jeu Mattel ou une Barbie, on a grandi avec. Et du coup, Mattel fait vraiment du marketing émotionnel en vous disant, vous achetez du Mattel quand vous êtes petit, quand vous avez des enfants. Mattel, ça vous suit tout au long de votre vie. Et nous, on s'est dit, il faut vous accompagner. Donc voilà, tu parlais d'American Girl, là, qui est l'American Doll, la poupée qui ne se cache jamais, parce qu'on a créé un hôpital pour que la poupée ait une deuxième et une troisième vie. Et que quand vous voyez, je sais pas moi, un Uno, immédiatement ça vous rappelle votre enfance et vous avez envie d'y jouer même si vous avez 60 ans. Et donc c'est vrai que quand tu réfléchis comme ça, tu dis que en fait Mattel, ça nous accompagne dans notre parcours de vie, marketing émotionnel, ça marche. Et donc tu as une histoire avec cette marque.
La concurrence, c'est les champions pour raconter des histoires aussi. Donc les deux ensemble, ça fait un bon
Et c'est rare, tu vois, que Shopify, maintenant en tout cas oui, ça fait partie de leur stratégie, mais à l'époque ils ne faisaient parler que leurs clients et eux tu les voyais pas. Et là c'est vrai que c'était plus Shopify qui parlait lui,
il s'émancipe aussi Shopify dans leur communication,
vrai,
etc.
Mais du coup je retrouvais moi tous les éléments de marketing émotionnel qui faisaient que ça ne pouvait que prendre et on ne pouvait être que captif. La concurrence, elle est rude sur le marché du jouet, et tu l'as dit, il y a des mots clés chez Mattel, c'est l'innovation constante. Moi je ne pensais pas qu'il y avait autant d'innovation et de créativité pour créer une poupée ou un jeu, et pourtant ça fait bien partie de l'ADN de Mattel. Et enfin moi je trouve que Shopify vraiment s'intègre parfaitement avec tout ce côté innovant, créatif, agile. C'est sympa, c'est joli et on a tous des beaux t-shirts et c'est cool de travailler et chez Shopify et chez Mattel.
Laetitia, je te propose de passer à la section les Frenchies de la NRF. On a rencontré pas mal de personnes dans les couloirs, enfin c'est pas vraiment des couloirs, dans les allées. Et puis on va les écouter. On a rencontré qui alors, Laetitia?
On a rencontré Westless, on a rencontré Facility, on a rencontré Emercia, Wiser, Retail Check, Echo et enfin Google.
Un petit qui se lance. On les écoute tout de suite. Et j'ai le plaisir d'être avec Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Laetitia, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et qu'est-ce que fait Facility?
Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Laetitia. Je suis en charge du développement commercial de Facility aux États-Unis depuis quelques années, depuis 4 ans. Et je suis aux États-Unis depuis 23 ans.
Et Facility, vous faites quoi?
Et alors Facility, on est des pionniers dans les technologies d'assistance et on a développé un système qu'on peut ajouter sur un site internet existant pour le rendre accessible aux besoins de navigation des personnes en situation de handicap.
On en avait déjà parlé, enfin Laetitia t'en avait déjà parlé il y a quelques mois.
Oui.
Et donc qu'est-ce que vous faites ici à la NRF? Est-ce qu'il y a des annonces particulières? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour vous en termes de nouveautés?
Oui, alors le NRF, ça fait 2 fois qu'on expose. On a exposé l'année dernière, ça s'est très très bien passé. Donc du coup, on a décidé de revenir cette année. Et oui, on a une annonce particulière qu'on a lancée au CES, donc il y a 10 jours de ça. On lance une app qui s'appelle MyDIS, qui est disponible en ce moment sur le App Store et qui est une app qui aide les personnes dyslexiques à comprendre ce qu'elles lisent dans la rue sur n'importe quel média en prenant une photo avec leur téléphone ou bien avec leur iPad. Et en ayant présélectionné des settings qui les aident à comprendre ce qu'ils lisent, en fait, ils auront donc accès à ce contenu avec ces settings.
Ça, c'est une application pour les particuliers. En fait, vous avez une solution pour les marques, pour les retailers, et une application pour le B2C, c'est ça?
Exactement, tu as tout compris. Donc, Facility, au départ, c'est du B2B. Donc, on travaille avec des sociétés pour rendre leur site accessible. Et MyDIS, c'est du B2C. On travaille directement avec des personnes dyslexiques.
Laetitia, je crois que vous avez remporté un prix la semaine dernière au CES.
Vous êtes très bien renseignée, Laetitia. Oui, on a remporté le prix de l'innovation de la meilleure app sur le CES. On est hyper fiers.
Bravo.
Merci.
C'est extraordinaire, bravo. Comment fait Laetitia pour te contacter ou pour en savoir plus sur Facility?
Alors, vous pouvez aller sur www.facil-it.com. Ou bien, si vous voulez télécharger l'app, vous allez sur le App Store et vous téléchargez MyDIS, MyDYS.
On va mettre tous les liens en commentaire de l'émission. Merci beaucoup, Laetitia, et bon courage pour la suite de ce salon.
Merci à vous.
Alors, c'est David Katz de la société qui s'appelle Wasteless. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on veut rencontrer des retailers qui sont intéressés à agrandir leur revenu et leur marge en prévenant des gaspillages alimentaires. Pour des retailers, le gaspillage alimentaire, c'est une de leurs plus grands coûts et ça prend aussi beaucoup de temps de leur effectif, de leur personnel. Alors, je suis hollandais, mais ça, c'est pourtant clair. Alors, ce qu'on fait, on fait une inventoire tout le temps, à plusieurs reprises dans la journée, de tous les produits qui sont en risque de leur date de péremption. Et la date de péremption, c'est une grande cause de tout ce qui est perte dans les grands magasins, les grands magasins. Pour prévenir cette perte, on maîtrise une façon pour réduire les prix d'un produit fraîche, d'une date de péremption entre 3 jours et 30 jours. Et on fait une réduction au bon moment et au bon prix. Comme ça, on peut avoir un retour sur investissement de 5 fois. Même 10 fois si on va dans un système plus intégré. Nous sommes déjà sur le marché. On travaille avec EDK, par exemple, un grand supermarché, chien de supermarché en Allemagne. On est très intéressé pour la marché française, parce que là, agrandir les marges, améliorer tout ce qui est sustainability, c'est une grande démarche. Alors, David Katz, @wasteless.com. Et je peux vous aider avec toutes vos questions de tout ce qui est sustainability et bien sûr les marges. Merci bien.
Et nous nous retrouvons avec Aurélien Vesset de chez Emercia. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Comment ça va Aurélien?
Ça va très bien.
Alors Aurélien, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais?
Oui, donc je suis le cofondateur et dirigeant d'Emercia. Emercia, en fait, c'est une plateforme qui permet de proposer de la visualisation et personnalisation de produits en 3D pour les sites marchands avant tout. Et depuis peu, on s'adresse également aux marques, enfin, aux équipes internes des marques pour leur permettre de faciliter en fait la création digitale de leur collection pour avoir une approche plus éco-responsable.
Est-ce que tu as une annonce produit ou une annonce innovation que tu voudrais partager ici pendant le salon?
Alors, on a pas particulièrement d'annonces. On apporte des innovations en permanence. Emercia, ça fait 10 ans qu'on existe et chaque année, on arrive avec des nouvelles innovations. Cette année, on est très orienté sur le Virtual Try-On, donc qui permet de faire de l'essayage de produits sur soi en temps réel depuis le site marchand. Et la particularité d'Emercia, c'est de permettre de personnaliser son produit en même temps qu'on est en train de l'essayer.
Dernière question, quels sont vos clients en France et à l'international?
Alors on a plus de 150 clients à travers le monde. On travaille avec beaucoup d'industries différentes. Pour citer quelques exemples, on travaille avec Salomon dans le sportswear, on travaille avec Vitra dans le mobilier, on travaille avec des groupes de luxe. Je peux pas citer tous les noms, mais les plus grandes marques, vous pouvez les imaginer. On a Vacheron Constantin que je peux citer dans l'horlogerie.
Vous êtes la NRF, on est à New York. Vous avez aussi des références ici aux US.
On a également des références ici aux États-Unis, donc on travaille avec Billabong par exemple, Target, Stanley Black & Decker, Avery Dennison, voilà, pas mal de belles références aux États-Unis.
Aurélien, comment est-ce qu'on fait pour suivre les belles actualités et innovations d'Emercia?
Le mieux, c'est d'aller sur notre site web, emercia.com, et vous aurez toute l'actualité d'Emercia et vous pourrez nous contacter.
Merci Aurélien. Et nous sommes avec Adrien de chez Wiser. Hello Adrien.
Hello.
Bienvenue à la NRF. Dis-nous ce que tu fais ici, Adrien.
Eh bien, je viens au NRF pour la deuxième fois avec Wiser dans un regroupement d'entreprises choisi par Business France. Et je suis très content d'être là. L'année dernière, c'est une année un peu marquée par la pandémie. Donc là, je découvre le NRF avec des allées bondées. Et je suis très heureux de venir représenter un peu l'innovation française auprès des retailers du monde entier.
Alors Adrien, qu'est-ce que tu fais chez Wiser et surtout, qu'est-ce que c'est que Wiser?
Alors, chez Wiser, moi, je m'occupe du développement commercial et Wiser, c'est une société technologique donc qui a développé une solution basée sur l'intelligence artificielle pour aider tout ce qui est retailer, e-commerçant, marketplace à améliorer la qualité de leur référentiel produit et à accélérer la capacité de mettre des nouveaux produits en ligne ou d'intégrer des nouveaux vendeurs.
Tu as une annonce particulière à faire à l'occasion de la NRF?
On est très heureux d'avoir des premiers cas concrets de connexion avec Miracle. Donc, on pourra en parler très prochainement sur des cas clients précis. Mais donc, la connexion est fonctionnelle. Donc, pour tous les commerçants et e-commerçants marketplace qui auraient besoin de développer sur Miracle, il y a des solutions pour améliorer la qualité de la donnée produit. Il y a des solutions pour accélérer le onboarding des nouveaux vendeurs et on sera ravis de vous en parler.
Adrien, comment est-ce qu'on fait pour te contacter ou pour suivre les actualités très chaudes de Wiser?
Alors déjà la page LinkedIn, on essaye de publier pas mal d'informations dessus et puis ensuite vous pouvez aller sur le site pour prendre directement rendez-vous avec quelqu'un pour une démo. Vous pouvez me contacter directement aussi, je serai toujours ravi de répondre. Donc moi c'est Adrien Kahash et c'est @yzr.ai.
Merci Adrien.
Et je suis avec Irwan. Bonjour Irwan.
Bonjour, bonjour. Alors bonjour Adrien.
Et Laetitia qui est à côté de moi mais qui n'a pas de micro. Irwan, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es déjà et ce que fait ta société Retail Shake? Est-ce qu'elle shake le retail?
L'idée, c'est d'agiter le retail, en effet, ouais. Alors, moi, je m'appelle Irvan, je suis le fondateur de Retail Shake. La société a 4 ans et on aide les gros retailers comme Leroy Merlin à monitorer leurs concurrents pour être meilleurs qu'eux à la fin.
Et le monitoring, il passe par quoi? Tu me disais que c'est pas juste le prix, mais qu'il y a d'autres éléments.
Oui, c'est ça. Quand vous voulez convaincre un client, bien sûr, il y a le prix, mais il y a tout le reste autour. Il faut avoir les bonnes photos, les bons avis, il faut avoir une fiche produit parfaite. Et nous, on va aider ces retailers-là à avoir aussi une fiche produit parfaite.
Et je vois quelques logos, Leclerc, Saint-Maclou, But, donc plein de belles refs en France. On est à New York, t'as aussi des refs aux États-Unis ou pas encore?
Non, pas encore. C'est pour ça que je suis là.
ça va arriver. Bah justement, on est à New York. Est-ce que tu as une annonce particulière pour cette NRF?
Moi, je suis là pour lancer un module, un produit qui est vraiment exclusif, je pense mondialement, qui permet de matcher les produits de façon automatique. C'est un véritable casse-tête quand il s'agit de comparer des marques propres entre différents retailers. Et nous, on vient résoudre ce problème-là. Et aujourd'hui, tu peux matcher une catégorie en moins d'une heure, là où avant, il fallait passer des jours en mode Excel cauchemardesque.
T'es dans la délégation française, dans le coin un peu français avec Business France. C'est une bonne ambiance entre les startups ou c'est chacun pour soi?
C'est chacun pour sa gueule. Franchement, on se déteste tous. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai cassé les jambes à un concurrent.
Non. Attention, l'audio, c'est très dur d'être ironique sur l'audio parce qu'on va pas le visage. On va couper cet extrait et on va le garder. Et je pense que ça va être bien polémique. Ça va faire des vues sur LinkedIn. Non, vas-y, je plaisante.
Non, moi, c'est aussi pour ça que je viens. C'est pour trouver des clients. Alors, on est en B2B. Je pense pas que je vais signer aujourd'hui un client. Hein, je suis là aussi pour une présence par rapport à des prospects, aussi par rapport à des partenaires. Quand on est en B2B, on est conscient qu'on est dans un écosystème avec des gens qui sont en amont de nous, en aval. On est sur des marchés qui sont en croissance. On n'a pas intérêt à se taper entre nous. mais plutôt par contre à fluidifier nos parcours d'achat.
Et je disais ça en rigolant parce que justement, on vient te voir parce qu'on ne te connaissait pas, parce que tu nous as été recommandé par une startup, par une solution. Comment on fait pour en savoir plus sur Retail Shake et ou pour te contacter ?
Alors, par fax, ça c'est le premier truc. Sinon, c'est retailshake.com, LinkedIn, les réseaux sociaux. On est une boîte un petit peu jeunes. Hein. Moi, j'ai des jeunes qui mettent plein de photos sur Instagram aussi si vous voulez voir un peu ce qu'il y a derrière. Voilà.
Mais c'est pas jeunes de dire jeunes. Déjà, il y a une erreur, tu vois.
Ouais, c'est peut-être un peu tristoun de dire ça.
Exactement. Je crois qu'on est la même génération, donc on utilise les mêmes mots. Merci mille fois. Bon salon et au plaisir de se croiser très vite.
Et je suis avec Émilie Brossier de la société Echo. Bonjour Émilie.
Bonjour la team.
Comment ça va Émilie? On se retrouve ici à New York. La dernière fois, c'était à Lille.
Oui, alors ben, nous, on a la méga pêche, hyper heureux d'être à New York aujourd'hui.
Émilie, raconte-nous, qu'est-ce que Echo fait?
Alors Echo, c'est une plateforme qui vous permet facilement d'intégrer de l'audio via des capsules audio dans votre digital et dans votre retail via des QR codes.
Émilie, qu'est-ce que tu fais toi chez Echo?
Alors moi, je suis cofondatrice et je permets de développer et de faire rayonner la marque.
Émilie, tu es ici à la NRF cette année, c'est la première fois, tu es sur le pavillon de la French Tech.
Absolument, une première. Avant, j'étais de l'autre côté, maintenant je suis là pour proposer et faire découvrir Echo.
Et tes premières impressions, parce que c'est le jour 1, comment ça se passe la NRF?
Alors une super traction, en fait on est une solution qui n'existe nulle part ailleurs, on est super surpris autour de l'audio, les retailers sont hyper intéressés de faire parler leurs équipes, leur raconter leur savoir-faire via l'audio. L'audio, et ce qui ressort très fort, c'est notamment l'Amérique latine qui est très orientée sur l'audio. On a énormément de retailers qui sont venus nous voir. C'est une vraie surprise.
Quand tu dis Amérique latine, c'est des Brésiliens, c'est ça?
Très bonne question. Pas seulement. Mexique, très très fort. Brésil, effectivement, et Argentine.
Génial. Ben, on espère que toutes ces rencontres vont se transformer en deal.
On est dans le coin français, dans le pavillon français. Il y a une vingtaine de boîtes françaises. Combien de cofondatrices parmi les vingtaines de boîtes?
Alors, écoute, c'est exactement la question que tu me suis posée. Je crois qu'on est deux, maxi. Super contente d'être au moins deux, mais une vraie pression quand même.
Comment est-ce qu'on fait pour suivre l'actualité d'Echo?
Eh bien, alors, sur Echo, www.echo.co ou sur LinkedIn ou sur mon LinkedIn.
Et j'ai l'honneur de retrouver Eric Chemouny ici à la NRF à New York. Salut Eric.
Salut, ça va?
Comment ça va?
Eh ben écoute, ça va. Je suis très content de retrouver cet endroit qu'on n'avait plus vu depuis 2 ans. Hein. Le Covid nous avait empêché de faire cet événement. Alors pour moi, c'est très intéressant parce que c'est ma 10e édition. J'ai traversé
Magique.
Les éditions ouais, au travers des différentes sociétés. Et ce matin, c'est un truc qui m'a fait marrer. J'avais un, tu sais, le tour de cou que tu mets là pour porter ton badge. Il y avait marqué dessus Google, SAP, Miracle, qui sont les 3 sociétés.
Ta carrière,
avec
ta
lesquelles,
vie.
Ouais, c'est ça, ma vie professionnelle. Les 3 sociétés avec lesquelles j'ai fait les NRF en rajoutant Ibris. Et voilà, on a fait le tour.
En tout cas, Eric, on est ravis de t'avoir croisé dans les allées de la NRF. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu as trouvé déjà des choses ici à la NRF? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui t'ont un peu popé dans l'esprit?
Alors, moi, je représente Google Cloud. Je dirige en fait ce qu'on appelle l'équipe Industrie Retail CPG. Donc, en gros, je manage avec mes équipes les 16 plus gros retailers en Europe, hein, que ce soit food, non-food. Et donc, on a plein de clients qui viennent nous voir. Et les clients viennent ici pour trouver les nouvelles innovations, pour trouver ce qui va accélérer leur business. Notre rôle en tant que Google Cloud, c'est d'accélérer la transformation de ces entreprises sur de la donnée, sur l'omnicanalité, sur la supply chain, sur la sustainability, sur la sécurité. Tout ce qui fait qu'un retailer aujourd'hui doit prendre de l'avance par rapport à ses propres concurrents ou par rapport à des digital natives qui vont beaucoup plus vite que lui. Et donc quand on a ces grosses organisations avec nous qui sont nos grands clients, ces entreprises qui ont beaucoup de mal à se transformer parce qu'elles sont très grosses. Et donc on doit les aider à accélérer, on doit les aider en particulier sur le monde de la data à aller beaucoup plus vite et à mieux connaître leurs consommateurs.
Eric, c'est quoi le challenge de cette année 2023? Et je veux les deux casquettes, quoi. Pas forcément juste Google, mais toi Eric Chemouny, à ton avis pour les retailers, cette année c'est
quoi
le challenge?
Moi, de toute façon, le challenge essentiel, c'est de m'amuser déjà.
Moi, je suis Est-ce pas que venu... tu t'amuses alors?
Ouais, moi je suis pas venu pour
On
bosser.
On rigole
en fait.
À NRF.
Ouais, bah, oui. Mais voilà, moi je suis pas venu pour bosser, je suis venu pour m'amuser, je m'amuse tout le temps. Et le fait de travailler dans une très grande entreprise, qui en plus est une entreprise à la fois très sérieuse, mais dans laquelle il y a beaucoup de fun, c'est très important aussi pour moi. Voilà, je suis venu reprendre contact aussi avec cet écosystème ici que j'ai pas vu depuis un certain temps. Il fait beau. Et on a très envie de voir les nouvelles innovations et de rencontrer
Attends.
Nos clients.
Non, tu veux réagir tout de suite?
Du coup, tu réponds pas à ma question, mais tu dis que tu veux t'amuser. Bon, ça me plaît bien. C'est bien le Eric que je connais.
Non, mais c'est attends, on est venu s'amuser. C'est-à-dire, quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, on est là pour aider les plus grandes entreprises à se transformer. Donc, c'est pas uniquement un jeu, c'est quand même très sérieux. Mais on le fait dans une ambiance qui est particulièrement innovante. et marrante.
T'as fait des store tours un peu ou pas encore?
Ouais, j'ai des clients qui sont partis faire des store tours. On organise nous-mêmes un événement demain soir sur notre Google Store. On a des centaines de personnes qui viennent nous voir. Le sujet ici, c'est vraiment sur le stand, c'est l'innovation, c'est montrer à nos clients tout ce qu'on peut faire de nouveau avec l'intelligence artificielle, avec la data. Si tu ne connais pas ton consommateur, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu tapes dans le vide. Là, il faut connaître son consommateur, fournir des modèles d'intelligence, de machine learning.
Eric, si on a envie de te connaître davantage, comment est-ce qu'on fait pour te contacter et suivre tes actualités?
Alors, moi, c'est très facile. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis chez Google, donc je suis accessible facilement. Je publie pas mal de choses. Là, je vais publier pas mal de choses pendant 3 jours. Sinon, il faut venir me voir sur le stand 5706. Super. Et puis, vous verrez, c'est très amusant.
Merci, Eric.
Content de vous avoir revu.
Eh ben, nous aussi.
Laetitia, on arrive à la fin de cette première journée, à la fin de ce premier épisode NRF, notre récap français. Je te propose qu'on fasse une petite conclusion. Bah écoute, conclusion de la journée de mon côté, j'ai trouvé que c'était une journée intense. On m'avait prévenu, c'était la première fois. On m'avait dit, Adrien, prépare-toi à marcher beaucoup. C'est très intense. Et effectivement, c'est très intense. On a fait un paquet de rencontres. Il y a énormément de francophones. C'est extrêmement grand. On m'avait prévenu, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'est sur des étages. C'est énorme. C'est vraiment géant. Tu n'as pas le temps de tout faire. Et effectivement, j'ai trouvé une citation, enfin encore une petite citation ou un chiffre qui m'a fait sourire. Quand on a fait le press tour ensemble, Laetitia, la personne nous a commencé en disant « Si vous voulez voir tous les stands sur les 3 jours, il faut passer 12 secondes par stand pour tout voir. » Donc ça montre, c'est et pour moi, c'est très difficile d'essayer de dire « Je vais couvrir un événement sans avoir tout vu » parce que j'aime bien avoir une vue exhaustive. Donc il faut juste accepter que tu ne peux pas tout voir, tu ne peux pas tout faire et l'accepter. Laetitia, conclusion de cette première journée.
Conclusion, ouais, journée intense. Hein. Puis surtout, on commence très tôt. Ici, c'est pas des salon qui ouvre à 12h, hein. Ouais. Enfin à 10h, pardon.
Et puis c'est ponctuel. C'est,
ouais, ils sont très ponctuels, il n'y a pas de retard. Il n'y a rien qui... C'est très rare que les choses ne fonctionnent pas et qu'il y ait du retard ou quoi. Du coup, ça commence très tôt. C'est à 8h ce matin, même avant, quoi. Moi, je suis arrivée en retard, mais en tout cas, c'est très tôt. Et il n'y a pas beaucoup de répit. Et si on a envie de tout voir et si on a envie de délivrer du contenu comme on vous fait, de qualité, je suis sûre que on n'a pas le temps d'aller aux toilettes ou même de manger. Et c'est une histoire vraie que je vous raconte.
On va parler caca pipi maintenant. C'est parti.
Non,
hein,
mais
c'est ça.
J'explique que j'ai même pas mal de toilettes dans le café de l'e-commerce.
Okay, okay, tu fais ce que tu veux.
Non.
Ok, je te pourrais pas dire. Et pas à manger non plus.
ce qui est pas mal, c'est quand même, on retrouve l'écosystème français. Alors, oui, c'est des gens qu'on voit par ailleurs sur d'autres événements. Mais de se voir ici à New York, bon, eh ben, les gens, ils sont sympas et ils ont envie de te parler. Il y a un truc qui se passe.
Ça fédère un peu. On ça est à fédère. New York et on est entre
ouais,
nous.
Voilà.
À
donc,
Paris, on
cool.
se jetterait des pierres. Et
bah, exactement. mais là, tout est cool, quoi. Ouais. C'est grand, c'est organisé. Bon, sauf pour la nourriture, mais on en reparlera peut-être dans un autre
épisode. Ça, tu sais même que ça, c'est un point de conclusion.
Scadrien, c'est hyper important pour lui.
On en parlera les derniers jours. Okay. Toi, c'est important, c'est comment les gens sont habillés. Moi, c'est la bouffe.
Ouais, bah non, moi, le truc aussi, ouais, comment ils sont habillés, comment ils se tiennent. Non, parce que franchement, on peut pas le dire, mais... on a fait un petit portfolio. Et le dernier point, c'est que c'est quand même pas un salon hyper éco-friendly. Hein. Il y a plein de goodies. Donc nous, on n'en voit plus dans les salons européens. Moi, clairement, quand j'organise des salons, on me dit c'est interdit parce qu'on a signé la charte nos goodies. Ah bah là, on s'en fout. Hein. On y va. Il y a de la moquette partout. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais ça fait longtemps, en tout cas, que comme Exposium a banni la moquette et que le sol est brut. Ah bah là, c'est pas du... Vous la sentez bien. Il y a des rebonds quand vous marchez.
C'est plus fatigant de marcher.
Ouais, exactement. Et le tri n'est absolument pas respecté. Le nombre de fois où j'ai voulu jeter quelque chose à la poubelle et en fait, bon, on s'en fout, c'est pas respecté. Les bouteilles de verre, j'ai pas vu de poubelle pour le verre. Bon, voilà, c'est des petits détails, mais ça compte quand même parce que quand t'as plus de 35 000 visiteurs. C'est des petites choses qui, à la
mais là,
fin...
Mais là, sur ce premier jour, t'es contente parce que tu connaissais pas les NRF comme moi. T'es plutôt contente.
Oui.
Et t'es optimiste pour la suite. Enfin, t'es
ouais,
contente de voir les
jeux. Ouais, non, je suis
curieuse.
J'ai hâte de voir la suite. Et puis, peut-être
on a
que
des interviews canons là qui sont prévues dans les prochains jours.
Ce qu'on a aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain. Et voilà.
Ouais. Merci beaucoup, Laetitia, de ce récap. Merci à tous
Thank
de
you.
Nous avoir écoutés. Et on se retrouve demain pour le récap de la deuxième journée.
Mais à demain, tout le monde.